France Culture.
Les nuits de France Culture.
Robert Capa. Ce nom, à lui seul, dit l'histoire du XXe siècle, dont on peut avancer qu'il en fut le photographe, présent sur tous les fronts où s'en écrivaient les chapitres les plus tragiques et les plus déterminants, la guerre d'Espagne, la guerre sino-japonaise, la Deuxième Guerre mondiale, en Afrique du Nord, en Italie, le débarquement de Normandie, la libération de Paris et Berlin en ruine, avant les premiers jours de l'État d'Israël et avant la guerre d'Indochine, où il devait mourir à 40 ans, le 25 mai 1954, alors que les combats touchaient à leur fin. Mais au-delà du véritable mythe, qu'il était presque déjà de son vivant, au-delà de la légende du cofondateur de l'agence Magnum, avec Seymour, Cartier-Bresson, Van Divert et Roger, qui était Robert Capa? C'était en 1989 ce que Dorothée Noblet proposait aux auditeurs de France Culture de découvrir dans un numéro de Profil perdu en deux parties. Au-delà de ces photographies célébrissimes, comme celle de Trotsky et celle du milicien républicain de la guerre d'Espagne, fauché en plein vol, de découvrir un photographe dont la guerre ne fut pas l'unique terrain et de mieux connaître l'homme et le parcours de sa courte existence depuis sa naissance en Hongrie en 1913. Nous écoutons maintenant la première partie de ce portrait dans lequel Robert Capa était raconté par son frère, Cornel Capa, sa cousine, Suzy Marquis, par le photographe Pierre Gassman, compagnon de ses débuts, par le grand décorateur Alexandre Tronner, ami de toujours de la famille de Bob Capa, par Maria Esner, qui fut de l'aventure Magnum dès ses débuts, par le grand homme de presse et de photos, John J. Morris, et en commentant les photographies de Capa par le photographe Marc Ribou. Profil perdu, Robert Capa, première des deux parties, diffusée le 19 octobre 1989 sur France Culture.
Profil perdu, Robert Capa. Quelques boîtes en carton sous le bras, la documentaliste est réapparue. Elle s'est assise à la table. Elle a ouvert, l'une après l'autre, les boîtes. Elles étaient remplies d'images en noir et blanc, des photos d'un certain Robert Capa. Surgissent alors des visages d'hommes, avant ou après les batailles, des maisons détruites, des civils fuyant l'avancée des troupes ennemies. Surgissent aussi de nombreuses images de paix, de vie dans les rues de Paris, défilés politiques, immigrants, enfants, ou encore les portraits des amis de Capa, Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Gary Cooper, Ingrid Bergman, Joris Stevens et tous les autres. Des images de guerre, il y en a beaucoup des images de guerre. La guerre d'Espagne, l'invasion de la Chine par les Japonais, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'indépendance d'Israël. La dernière, c'est la guerre d'Indochine. Robert Capa est né à Budapest le 22 octobre 1913. À sa main gauche, un sixième doigt. On a dit alors que ça lui porterait bonheur. À 17 ans, il est expulsé de Hongrie et part étudier le journalisme à Berlin. Il aura de nombreux pères spirituels. Son ami Eva Bégnaud, photographe, Lajos Kaszák, son mentor artistique et politique. À Paris, au début des années 30, Capa et Cartier-Bresson subissent tous deux l'influence d'un autre Hongrois, Kertész. Avec Jim, David Seymour, il développe un style de photographie nouveau, spontané. On parle alors du moment décisif. Plus tard, en 1947, les mêmes, Capa, Cartier-Bresson, Seymour, mais aussi George Rogers, fondent l'agence Magnum. Pierre Gassman.
J'ai rencontré Capa parce qu'il était devenu le copain d'une vieille amie que je connaissais depuis 1933 parce qu'elle faisait partie du même groupe des réfugiés allemands que moi. C'était Garda Taro, qui jusqu'à sa mort en Espagne était l'amie des Capa. Et c'est elle qui me disait qu'elle s'occupe maintenant d'un photographe, Robert Friedman, J'ai connu Robert Friedman, mais je l'avais déjà rencontré auparavant, parce qu'il nous avait rejoints dans l'AIAR. L'AIAR, c'était une association gauchiste, plus ou moins, d'intellectuels auxquels tout le monde appartenait. Fernand Léger, André Lhote, Aragon, Jean-Ricard Bloch, Barbus, etc., etc. Tout ça. Mais tout ça, c'était des farfelus. Ils n'avaient pas de métier. De quoi vivaient-ils? Bon. Vous savez, la photographie à cette époque-là, c'était pas un métier. C'était une occupation. Et on s'est débrouillé pour vendre quelques photos. Même des gens plus tard très connus gagnaient très mal leur vie. Et les seuls qui gagnaient leur vie avec la photo, c'était des portraitistes ou des boutiquiers qui reproduisaient la photo du cher disparu de la guerre de 14 à 18. Il y avait aussi les photographes de mode, lorsque la photographie de mode avait commencé en France sous l'influence de Lucien Vougel, qui en 1921 ou 22 avait créé la revue du Bon Temps. Par la suite, il était le créateur de Vue et de Lue, deux journaux hebdomadaires très en vogue à cette époque-là. Vogue n'était pas était créé aussi seulement dans les années 27-28. Alors là, il y avait des photographes qui gagnaient bien leur vie. Mais c'était les seuls. Et des photographes célèbres plus tard, Kertész, Brassailly, etc., ben, je n'étais pas du tout gêné de faire des reproductions des tableaux pour le copain, qui payait à peine la dépense en plaques et en papier, et puis peut-être un repas. Et puis photographier les bébés du médecin en face ou de la concierge. Mais il y a des très belles photos qu'ils ont fait. C'était pas des portraitistes, mais ils travaillaient déjà avec les petits formats. Et les petits formats, c'était pas forcément le 24-36, c'était aussi les 6-6. Parce que les autres, les professionnels, travaillaient évidemment avec des grands appareils. Encore en 1936 ou 37, des photographes comme Henri Cartier-Bresson au CAPA se faisaient virer de l'Élysée parce qu'il n'y a que les professionnels qui avaient les droits. Alors les professionnels, c'était des types avec de la poudre magnésium et des grands appareils.
Dans un petit hôtel particulier à New York, à l'angle de la 5e avenue et de la 94e rue, le Centre international de la photographie, son fondateur, Cornel Kappa.
Le Leica a été inventé en Allemagne. Et il présentait l'avantage d'un objectif très petit, maniable et performant. Si bien qu'il n'y avait pas besoin de flash pour les prises de vue en semi-obscurité. Le Leica a vraiment été inventé pour la photographie telle que Cartier-Bresson et mon frère la pratiquaient. Ces appareils étaient petits, facilement camouflables. Et ils pouvaient prendre des photos dans pratiquement n'importe quelle condition. On peut travailler de très près ou de très loin avec cet appareil sans attirer l'attention sur le photographe lui-même. Les journaux ont alors commencé à s'intéresser à cette candide photographie pratiquée à Paris par nos deux photographes, le français Cartier-Bresson et le réfugié hongrois Robert Capa. C'était d'autant plus important pour mon frère parce que le terme de freelance n'était pas encore connu à l'époque. Un photographe freelance, c'est quelqu'un qui n'a pas de permis de travail. Selon les lois françaises, on ne pouvait donner un emploi à un étranger dans le cadre d'une entreprise française. Alors que les Français eux-mêmes étaient au chômage. Alors posséder un appareil photo, ça n'était pas illégal parce que ce n'était pas un boulot. C'est ce qui a rendu possible la vie d'un Hongrois réfugié à Paris. Comme ça, il pouvait gagner sa vie sans avoir de travail. Voilà pour ce qui est de l'appareil photo.
Eisner.
Je l'ai vu et rencontré, on s'est parlé, on s'est dit bonjour, dans un restaurant dans le quartier des journaux, comme Fleet Street in London. Il y avait un quartier à Berlin où il y avait les plus grandes maisons d'édition de quotidiens et de magazines. Il y en avait deux, competitors. Et dans ce quartier, il y avait un restaurant, un café-restaurant, où tout ce monde journalistique allait pour déjeuner. Et on m'a amené quelquefois des gens que je connaissais. Et là, Kappa allait aussi à l'époque pour voir se trouver des amis qui l'inviteraient à déjeuner, je crois, parce que tout de même... Il travaillait avec M. Goodman, donc, je suppose. Il n'avait pas d'argent. Oui, comment c'est? Et c'est, là, c'est de cette époque-là que je me souviens de lui. C'était un très beau garçon, intelligent, sympathique.
Quant à Simon Goodman, il était le premier agent de la vente de Kappa, mais déjà à Berlin. C'est Simon Goodman qui a envoyé Kappa à Oslo, où il a photographié Trotsky, la fameuse photo de Trotsky.
C'était en 1931, quelque chose comme ça?
Ou 32, je crois. 32. Simon Goodman faisait partie aussi de la DPA. Et c'était un homme qui d'ailleurs est encore vivant en Angleterre, qui avait un jugement extrêmement perspicace et immédiat. Je me rappelle Simon trier 100 ou 150 photos d'Henri dans l'espace de moins de 10 minutes, un quart d'heure, de les faire passer comme des feuilles de papier devant ses yeux, et sortir de 25 photos qui étaient les meilleures de 2 mois de travail en URSS. Il avait une espèce d'instinct immédiat. Il était aussi notre conscience, parce qu'il critiquait évertement, terriblement. Il nous traitait de tous les noms. Mais il avait une très grande influence intellectuelle sur toute notre génération.
So oder so ist das Leben, so oder so ist es gut. So wie das Meer ist das Leben, ewige Ebbe und Flut. Heute nur glückliche Stunden, morgen nur Sorgen und Leid. Neues bringt jeder Tag, doch was auch kommen mag, halte dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst, nur darauf kommt's an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, du änderst nichts dran. So oder so ist das Leben. Ich sage heute ist heute. Was ich auch je begann, das hab ich gern getan. Ich hab es lieber heute.
Marc Riboud.
Vous voyez cette photographie ici dans ce livre de Trotsky à Copenhague en 1932. Eh bien, Kappa, je crois, arrivé à Copenhague de Hongrie, c'est une de ses premières photos. Le négatif est très abîmé. Elle a un caractère. Il y a peu de photographies de Trotsky. Et 32. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais que Trotsky est venu dans cette maison ici où vous m'interviewez, où je parle, 3 rue Auguste Comte. En 1930, il a été hébergé ici par Simone Veil, la philosophe, et qui m'a raconté comment il est venu ici. Ce qui prouve que en 1932, il était déjà depuis un an ou deux en Europe. Il était recherché évidemment par la GPU, par les staliniens, qui le détestaient. Et ça, c'est un congrès, conférence devant des étudiants danois sur l'histoire de la révolution russe. Ça a été son premier reportage publié. Vous voyez, c'est tout abîmé, la gélatine du négatif, tout abîmé. C'est une photo qui est très forte. Et même ce caractère complètement abîmé, cassé du négatif, lui donne aussi un caractère. Mais là, il faut en regarder beaucoup. Ce sont une série de documents d'une époque sur une époque. C'est très intéressé par la politique, bien qu'il ne soit pas un homme politique. Et au fond, je crois qu'il était très intéressé par l'idée d'être dehors, dans la rue, et d'enregistrer de ce qu'il voyait. Et les photos, ces hommes avec des saucisses, un boucher sympathisant envoie aux grévistes de l'usine Lavalette un panier rempli de saucisses. On voit très bien Kappa là-devant, il adorait... bien manger, il adorait bien boire, il adorait avoir des copains, voir des femmes, aller aux courses. Et là, les grévistes, mais il aimait beaucoup aller suivre la politique, savoir. Il venait d'un pays pauvre, et devant un spectacle de ces saucisses dans un énorme panier, on voit très bien le rire ou le sourire en coin que devait d'avoir Kappa avec une cigarette au bec, pensant au cocasse de la situation. Voilà une photo très connue, c'est le départ des troupes en Espagne pour le front à Barcelone. Et on a l'impression, ça c'est Kappa, que les gens qui sont là et qui rient et qui saluent du poing, ils saluent à l'adresse de Kappa. Vous savez, très souvent, nous, photographes, on aime être discret et observer ce qui se passe. Et là, on sent très souvent chez Kappa le dialogue entre lui, le photographe, et la scène photographiée.
Après, je l'ai revu à Paris, et là, je ne me rappelle pas comment. Ou bien, on sait... À Paris, il y avait aussi des endroits où un certain genre de personnes se rencontraient. Au Dôme. Coupole et Dôme, Café Dôme. Alors, c'est peut-être là qu'on s'est revus pour la première fois, ou on s'est rencontrés dans la rue, Montparnasse, quartier Montparnasse. Tom Gunter a fait des recherches et il a trouvé un nombre de photographies. Chim, Alliance Photo, Kappa, Alliance Photo, quartier Bresson, Yves. Moi, quand on préparait le reportage sur Alliance Photo, l'idée ne me serait pas venue d'y inclure Kappa et Cartier-Bresson. Chim, il travaillait pour Regard, hebdomadaire. Les reportages de Kappa, par exemple, sur la guerre en Espagne, ça appartenait à... Herald Tribune, je ne sais plus pour qui. Enfin, avec Steinbeck plus tard, c'était déjà Magnum. C'était plus tard. Mais enfin, quand il avait des commandes directes par Vogue, Borg a vu Lucien Vogel. Il connaissait très bien Vogel. Vogel l'a fait poser un jour sur bicyclette. Je ne sais plus si c'était une photo de mode ou je ne sais pas ce que c'était. Mais enfin, quand il a travaillé pour des gens comme ça, qui l'appelaient directement, j'avais pas droit et je n'ai pas réclamé un droit de reproduction. Il ne me devait rien. Quand il s'est procuré, il ne faisait pas partie du groupe, il ne partageait pas nos frais de bureau et tout ce qu'il y avait de secrétaire. C'était un freelance plutôt. C'est sûrement Capax qui avait toujours les meilleures idées. Il voulait être indépendant, travailler sur commande et garder leurs droits de reproduction. Pour les photos de la Russie soviétique, c'est le premier photographe, Robert Capa, avec Steinbeck, écrivain, qui a eu permission de prendre les photographies. Tout ce que vous voyez à cette époque-là, des photos de Soviet Russia, c'était des photos d'agence TASS, l'agence russe. Pour la première fois, ils ont permis à un photographe et il n'a pas eu besoin de développer là-bas et soumettre à leur censure ce qu'il avait fait. Tout passait. Alors, nous, dans Magnum, la première fois, c'était un des premiers reportages en Magnum, on avait une estampe disant cette photo ne peut pas être reproduite en changeant, avec un change de légende ou un change du sens de la légende. They can revert it as they like, but si c'est une commande, on donne les contacts. Le rédacteur a droit à faire son choix à lui. Je crois d'habitude ce que nous faisions, les photographes tiraient les photographies qui leur semblaient importantes, mais en donnant en même temps tout ce qu'il avait fait, et s'il voulait remplacer, ajouter, c'était quand même à celui qui avait commandé le reportage.
Quand j'ai connu Henri en 1933, il tirait toutes ses photos sur du papier, Henri Cartier-Bresson, sur du papier extra contraste, le papier le plus dur qui existait en Europe. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit c'est le papier que le marchand de couleurs me vend quand je lui achète une pochette. Enfin, à cette époque-là, Capa était encore Robert Friedman. Nous étions avant le Front populaire, c'était en 1934. Comme Douaneau l'a si bien exprimé, on se réveillait tout le matin, on s'est demandé qu'est-ce que je peux broder comme idée pour faire une série de photos. Maintenant, une série de photos, c'était 4 ou 5 photos. Alors, on gagnait à l'occasion, on en vendait une ou deux. Et c'était assez mal payé. Il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui des médias. Cap a évidemment rejoint cette groupe de l'AER, qu'on appellera aujourd'hui progressiste ou libéral. Plus tard, c'est la Maison de la Culture qui en sortait après le Front populaire en 1937. Et ce n'est pas un hasard que par la suite, à ce moment-là, on retrouve Cap, Chim et Henri ce soir et moi-même très souvent au laboratoire de ce soir qui était le journal créé en concurrence avec Paris Soir par Jean-Ricard Bloch et Aragon mais il y avait déjà tout le mouvement de 1935-36, le Front populaire, la guerre d'Espagne qui avait commencé et c'est là où a commencé la carrière de beaucoup des gens. Gerd avait trouvé les trucs, Robert Friedman était impossible à vendre. Alors elle a raconté une histoire inventée de bout en bout, qu'elle avait un photographe fantastique, mais il est sous exclusivité, etc. Elle a inventé Robert Capa. Et Bob l'a compris et su seulement quand un rédacteur lui montre ses photos à lui. On disait, tiens, vous devriez faire des photos comme ça. Il est bien, ce Capa-là.
Elle ne lui avait pas dit.
Non, non. Bien sûr, elle n'a rien dit.
Je crois que la chose importante à savoir à propos de mon frère et de Chim jusqu'à un certain point, c'est que c'était des réfugiés séparés de leur patrie. La Pologne, je ne peux pas vous dire grand-chose à propos de Chim et des problèmes de la Pologne, où il y avait toutes sortes de lois contre les Juifs et où des choses déterminantes se sont passées. Mais certainement, je peux parler du dictateur hongrois, l'amiral Horthy. Dans ces jours-là bien particuliers, comme à Paris et maintenant de façon très intense en Chine, les étudiants sont la fermentation de la jeunesse de tous les pays. Et mon frère était un antifasciste bien avant que le fascisme ait un nom, avant que le nazisme n'ait un nom. Le dictateur hongrois Horthy était anticommuniste parce qu'en 1918, en Union soviétique, c'était la révolution. Et le régime communiste de Béla Kun s'était installé en 1918 en Hongrie. Les jeunes sont beaucoup plus pour la gauche que pour la dictature. Il était un étudiant militant. Il n'appartenait à aucun parti, mais les étudiants étaient des militants. Et comme les étudiants manifestaient tout le temps, il s'est fait prendre lors d'une manifestation. Il a été expulsé d'Hongrie en 1931, quand il est parti pour Berlin. Et ainsi, être en lutte, politique toute sa vie, avec Schuschnigg, Horthy, le Front populaire, l'Espagnol Franco, puis Hitler et Mussolini pendant la Deuxième Guerre mondiale, toute sa vie fut celle d'un antifasciste.
Et c'était un photographe engagé. Est-ce qu'il lui arrivait de faire des photos simplement, par exemple, pour défendre la cause, le Front populaire ?
Oh, écoutez, ça c'est un mythe que je n'aime pas beaucoup. Bien sûr, il était engagé, comme nous tous. Comment pouvait-on ne pas être anti-hitlérienne ? Et si on est anti-hitlérienne, ce n'est pas avec des parti du centre ou du centre-gauche, social-démocrate et autres qu'on pouvait l'être. On ne pouvait être qu'extrémiste. Mais il n'était jamais membre d'un parti. Mais en France, à cette époque-là, il y avait deux, ce qu'on appelle aujourd'hui, médias. Il y avait Regard et Vue. Vue était créé par Lucien Vogel. Et ça, c'est le rôle de Lucien Vogel qui, dès 1924, a introduit la photographie dans des journaux de mode, où il remplaçait, sous son influence, les dessins. Donc, on était de gauche. Et le deuxième journal était Regard. C'était un hebdomadaire sous l'égide du Parti communiste, sans être réellement un organe du Parti communiste, mais il n'y avait que des gens de gauche et de l'ultra-gauche. Et ça, c'était l'autre source pour pouvoir vendre. Donc, Schimm, Joseph Freund, moi-même, Kapp. Ben, bien sûr, on faisait des photos qu'on pouvait vendre. Et qu'est-ce qu'on pouvait leur vendre? Mais des photos qu'eux voulaient faire. Donc il fallait faire les photos qui pouvaient être achetées. Et c'est ça le professionnel. Vous voyez, toutes ces histoires d'engagement, bien sûr, on n'était pas des réactionnaires, on ne pouvait pas l'être. D'abord, parce qu'on était de gauche, on était jeunes. Et deuxièmement, parce qu'on était juifs. Ça avait sans petite, une certaine importance pour nous.
Alexandre Trôneur.
Oh, je l'ai connu en Hongrie dans les années 30. Non, mais même avant, 28. Le père de Kappa et mon père étaient deux tailleurs à Budapest. Deux tailleurs qui jouaient aux cartes. Et la présentatrice était toujours qui est-ce qui était le meilleur joueur de cartes, qui est-ce qui était le meilleur tailleur. Comme par hasard, c'est mon père qui était le meilleur tailleur, mais le père de Kappa était un tailleur qui était bien aussi.
Vous avez quitté la Hongrie l'un et l'autre au même moment ou...
La vie est devenue trop difficile dans le sens que nous, on était de milieu bourgeois. Et notre vie était liée à une sorte de chauvinisme. Comprenez, à l'université, on ne pouvait pas rentrer. Sur la porte de l'université, il y avait une pancarte toujours interdite aux chiennes et aux juifs, qui montre l'atmosphère de Budapest de cette époque où les écoles sont venues, jamais la même école, mais des autres écoles sont venues pour battre les gens. Les Juifs et tout le monde connaissait parce que c'était marqué déjà dans le bouquin d'école qu'on avait de l'année, qui était la première chose. Alexandre Trôneur, nationalité hongroise, juif, qui était la première chose qui était marquée et qui était la grande raison d'ailleurs de notre départ. J'ai quitté avant Kappa. Kappa est venu 3 ans plus tard, vers 34.
Vous-même, vous étiez peintre à cette époque-là?
Oui. J'étais peintre, j'étais au Beaux-Arts.
Et Kappa était...
Il était plus jeune. Il était au lycée. Moi, je suis venu à Paris directement. Kappa, je pense qu'il est passé par Berlin.
Et vous l'avez retrouvé après
À Paris. Il m'a amené un paquet de ma mère, un paquet de charcuterie et des gâteaux. Et après, il cherchait sa voie et petit à petit, il s'est mis avec un photographe, avec Brachaï. C'était l'assistant de Brachaï à un moment donné. Qui était l'époque de Dôme. On allait tous au Dôme et ils habitaient rue Froidevaux. Il a survécu, comme on dit. À l'époque, on survécu plus facilement parce que les cafés étaient plus connus et tout le monde vous payait un café crème. Alors on ne pouvait pas mourir. Il y avait le groupe des Hongrois, qui était Brachaï, un homme nommé Bologny, moi-même. On a travaillé ensemble. Lui avait déjà l'organisation Magnum, qui travaillait pour des films. Et moi, j'ai travaillé dans les films. Terre des Pharaons, un film avec Kirk Douglas qu'on a fait tout de suite au début de la guerre. Film de Litvak. Une histoire d'amour. l'agence Magnon faisait les photos et qui diffusait. L'idée géniale, c'était la diffusion, la garantie de diffusion par la FA Time Magazine, qui était le grand diffuseur d'images.
Mes chers amis, la parole est à notre ami Léon Blum, président du Conseil. Mes chers amis, je suis obligé ici de mesurer mes mots. Et vous le comprendrez, je sais que le maintien du gouvernement légal de la République espagnole garantirait à la France, en cas de complications européennes, la sûreté de sa frontière pyrénéenne, la sûreté de ses communications avec l'Afrique du Nord, et sans que je me permette aucune prévision sur un avenir que nul ne connaît exactement, je peux pour le moins dire que du côté du gouvernement militaire, il nous est impossible de prévoir, au contraire maintenant, avec certitude, quelles seraient ou les obligations ou les ambitions de ces chefs. Je dis que d'un côté, il y a pour nous une sécurité, et de l'autre côté, pour le moins, qu'il subsiste un risque. Et si quelque chose aujourd'hui doit être aux yeux de tous un affreux scandale, c'est que cet intérêt évident de la France ait été à tel point méconnu par une presse partiale jusqu'au crime et jusqu'à la trahison.
Suzy Marquis.
Les nouvelles pendant la guerre d'Espagne de Bob, on ne les avait que par les photographies qui étaient exposées dans les vitrines de ce soir, de vue, et tout ça, comme on expose encore maintenant les journaux, Figaro, n'importe où. Et donc moi, j'avais pour mission d'aller repérer les photographies de Bob. Et souvent, je rentrais à la maison en disant, mais non, les photos sont toujours les mêmes depuis 2 ou 3 jours. Alors donc, on ne savait plus où il était. Et puis un jour, apparaissaient encore d'autres photos. Donc on savait à peu près, on suivait un petit peu sa carrière comme ça.
Donc Robert Capa, c'était votre cousin?
Cousin au second degré, mais un bon grand cousin. Je l'ai connu assez tard, et pour moi, il a toujours été un mythe. Il est devenu un mythe plus tard pour d'autres, mais pour moi, ça a toujours été un mythe. Parce que quand j'allais en vacances chez ma grand-mère à Budapest, je rencontrais évidemment toute la famille, y compris son frère Cornel, qui était de 4 ans plus jeune que lui, que j'ai connu donc jeune homme. Mm-hmm. Mais Bob, je ne l'ai connu qu'adulte. Pour moi, Bob n'existait que dans mon imagination, d'après ce que la famille m'en disait. Et le fait que ce garçon si jeune ait pu s'échapper de la famille, pour moi c'était important à l'époque, j'étais gamine, qu'il ait pu s'échapper de la famille, c'était pour moi une chose totalement inconcevable. Parce que la famille, c'est un concept extrêmement fort. Que ce soit la famille génitrice ou que ce soit la famille professionnelle, c'était quelque chose, un concept extrêmement fort, en tout cas dans notre petite sphère. Et ensuite, c'est devenu également quelque chose d'extrêmement fort et de solide quand Bob a fondé l'agence Magnum. J'ai vu Bob aller, venir. Mon père faisait de la photographie aussi en tant qu'amateur. Et Bob, à un moment donné, était un peu coincé. Il n'avait pas de labo. Les événements de 36, etc., il les a couverts. Et nous habitions rue Godeau de Mauroy, donc à 2 pas de l'opéra où se passaient beaucoup d'événements pendant les années 36. Hein. Et il venait de temps en temps chez nous déposer un film. Mon père lui développait dans le petit cagibi derrière, le petit cagibi noir. Et puis moi, quand je rentrais de l'école, il fallait que je sèche ça à la sécheuse à main Hein? Alors je séchais les tirages que mon père avait fait en vitesse. Bob venait de temps en temps faire les tirages, mais enfin pour moi c'était rien, c'était comment dirais-je presque un moustique quoi. Il venait, il repartait, il revenait, il repartait. Je l'apercevais, comment vas-tu petite, et puis c'est tout. Enfin il y avait rien de, il y avait pas de relation si vous voulez entre nous. Cette habitude d'apparaître inopinément comme ça ou de ne pas apparaître. Quand il avait dit qu'il viendrait, ça c'est resté chez lui une chose habituelle, hein, d'un bout à l'autre de sa vie.
De tout temps, de nos débuts de relation jusqu'à sa mort, on avait la crainte que Capa arrive avant que le film soit sec et en sécurité. Parce que nerveux comme il était, il voulait voir toutes les photos et tout de suite en négatif. Et il y en avait des doigts partout. Et je vais encore démystifier. S'il critiquait quelque chose à un tirage, il dit « Mais je pourrais jamais le vendre comme ça. » Parce que tel rédacteur aime les tirages contrastés, tel autre ne l'aime pas, tel journal, mais ils font un hélio. Regard, par exemple, les vues, c'est imprimé un hélio. Pour qu'une photo sorte bien en hélio dès l'époque, il fallait le tirer très doux et très nuancé, parce que le contraste venait dans le procédé de l'impression. Si on les tirait tel que nous l'aimons pour une exposition pour nos yeux, c'était impossible à vendre. Ils voulaient vendre. Alors, Bob Capa, d'ailleurs, c'est une caractéristique pour beaucoup de photographes, et tout particulièrement pour Bob, pour Jim, pour Henri. Au retour de leur voyage, et Bob plus que les autres, avant d'avoir développé les films, il me racontait déjà tout ce qu'il avait photographié pour faire une première page, une double page, etc. J'avais toujours l'impression qu'il a photographié avec la mise en page. Terminé. Une fois qu'on se trouvait devant le compte, il était très enthousiaste à ce moment-là. Quelques heures après, quand il regardait les contacts, c'était la dépression nerveuse, j'ai tout loupé. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, rien. Et puis on commençait à étaler ça par terre et regarder les contacts et au crime de lèse-majesté aujourd'hui, à cadrer les photos. Ça, on peut couper, etc. C'était pas pour tout le photographe, mais Capa. D'abord, il faisait qu'une partie, une partie de ses photos d'Espagne, ils sont en 24-36, qu'il faisait au Contax, mais beaucoup étaient en 6-6. Il savait même se servir d'un 4-5 inch. Alors, tout ça, c'est son limite. Le 24-36 avec les petits bords noirs autour, ça vient 20 ans après. Et puis les cadrages dans l'appareil, tout ça, ce sont des histoires. Il cadrait comme Douaneau, comme Isis, comme Brassailles, tout le monde. Mais Capa était un excellent vendeur. Savoir ce qui va plaire à tel journal, à tel rédacteur, c'était ça le nom de Capa. Et c'était pas un hasard qu'il était aussi ami, aussi lié avec les rédacteurs en chef des principaux illustrés après la guerre, parce qu'il a travaillé avec eux, il connaissait, il savait parfaitement bien quand il faisait une photo, ça va plaire à Monde d'Or, et ça va plaire à Spooner, etc. Non pas au public, parce que ça on retombe dans les mythes, hein, mais à celui qui achète.
¿Nuestros?
Sí.
Andarán cerca del río. Ya están allí. El parte dice el puente sobre Tomo.
Eso depende de Linas. Sin Linas no podemos con el puente.
Los nuestros se han hecho con el pueblo esta noche.
Entonces, tienen que aguantar allí. Si no hay más que policía vigilando el puente, bueno va. Si no...
El puente está minado bajo tierra, ¿no?
Desde luego. Pero si los moros llegan a Linas, el puente estará custodiado por el ejército y será difícil hacer nada. No son bastantes. Una cosa así solo puede hacerse con camaradas.
La foto de una belle femme, j'ai toujours cru que c'était Gardo Garola, l'ami de Capa.
Guerre
d'Ataran. Oui. Et là, oui, toutes ces scènes de la guerre d'Espagne. Et c'est la fameuse photo là de milicien qui est tué au moment de courir en avant. Et cette espèce de sens extraordinaire de l'action, de l'instantané. Le Capa, et cette photo est devenue un symbole pour la guerre d'Espagne, de ce soldat. Et le moment où la photo est prise, c'est le soldat, le fusil lui échappe des mains, donc il a été frappé. Et la photographie est vraiment au cœur de l'action. Là. Très souvent, il s'est trouvé comme ça, au milieu de gens qui étaient tués, au milieu devant gens qui étaient tués.
Vaya asco de balas. No tocamos ni a 20, ya vendrán otras. Entonces, camaradas, la cosa está clara. Operación primera, pasar la puerta vieja. Imposible salir por otra parte.
¿Qué hacemos con el control?
Nos lo cargamos, no hay ni 10 hombres. Segunda operación, una vez fuera de la ciudad, llegar al garaje de Arnaldo.
Alors qu'il s'apprêtait à partir de nouveau en Espagne, Robert Capa, en feuilletant les journaux, tomba sur un bref communiqué donnant des nouvelles du front espagnol. Une journaliste française, Mademoiselle Tarot, tuée au cours des combats de Brunette. Le même soir, Louis Aragon fut informé par téléphone à Paris que la nouvelle était exacte. C'est après cette mort que Gerda Tarot devait connaître la gloire qu'elle avait tant souhaitée. Lorsque Ted Allen, encore sur des béquilles, était arrivé à Paris, Capa lui rendit visite à son hôtel. Allen lui demanda timidement. « Sais-tu que j'étais amoureux d'elle ?» Capa lui répondit. « Que crois-tu ? Qui aurait pu lui résister ?» Gerda Tarot était photographe également ?
Non, elle n'était pas. Elle était venue. Elle aimait bien les photos, oui. Oh, vous savez, nous avions 20 ans. Et puis, dans notre génération, on a découvert la photographie. Elle aimait bien un très beau garçon. Qui était Bob Capa. Il avait beaucoup de charme. Ça, un charme fou. Et puis un jour, elle s'est mise à faire des photos. Elle accompagnait, elle les vendait d'abord, et ensuite elle accompagnait en Espagne. Et puis, c'est une chose que Bob a toujours regretté, qu'il l'a amenée, et qu'elle a commencé à faire des photos. Parce qu'elle est morte. Par manque d'expérience.
Moi, Gerda, je ne l'ai pas connue. Je n'en ai vraiment entendu parler que quand elle est morte. Et alors là, il paraît que ça a été vraiment une chose atroce pour lui. Enfin, ma mère me disait qu'elle ne savait pas comment il allait s'en tirer, tellement il était bouleversé. Je ne sais pas s'il n'a même pas pensé à attenter à ses jours, parce que c'était vraiment devenu quelque chose d'immense pour lui, la perte de Gerda. Et il paraît que l'enterrement de Gerda a été aussi quelque chose d'extrêmement émouvant. Moi, je ne me souviens pas si vraiment j'y assistais ou si ce sont seulement les souvenirs des autres que je me suis appropriés. Hein. Mm-hmm. Je ne peux pas le dire, mais j'étais vraiment trop petite à l'époque.
Est-ce qu'après la mort de Gerda Tarot en Espagne, ces photos ont changé ?
Non, puisqu'il est parti en Chine et puis il est revenu en Espagne. Il a fait la fin de la guerre d'Espagne et puis l'autre guerre est arrivée à Haïdardar tout de suite. Mais pendant un moment, ça, j'ai jamais eu des détails. Lui, il était parti aux États-Unis. Ça vasouillait dans sa vie. Il avait du mal. Et quand il est reparti en Angleterre, avec les armées alliées, comme ennemi, sujet ennemi, parce qu'il n'avait pas de passeport, eh bien, là, il était de nouveau à sa place, dans l'action. Et ce n'est pas la guerre, c'est l'action. Parce qu'il a fait des photos magnifiques par la suite, aussi bien chez les pêcheurs de norvégiens, dans la génération X, que des photos de ski avec la princesse Juliana et son prince Bernard à Tsurs. C'était toujours des photos d'action, ou des gens qui dansaient, mais c'était toujours en plein mouvement. C'était quelqu'un qui avait des idées, des journalistes, et qui savait être au bon endroit au bon moment.
He played the pinball machine on rue Faubourg Saint-Honoré under the.
Il jouait au flipper rue du Faubourg Saint-Honoré en dessous du bureau de l'Alliance Photo où Magnum avait ses propres bureaux.
He loved to play the pinball.
Il adorait jouer au flipper. Il adorait jouer de tous les jeux de la chance.
The biggest game of chance he had.
Et bien sûr, son plus grand jeu de la chance, c'était d'être photographe.
Took his life into his hand.
Parce qu'à chaque fois qu'il rentrait dans l'action, il prenait sa vie entre ses mains.
The best way to avoid getting killed.
Il calculait le meilleur moyen pour ne pas être tué, en même temps qu'il se rapprochait au plus près de l'action.
This gambling proposal was really
something. C'était une mise en jeu.
One thing he had a reaction against all his.
Et bien sûr, cette mise en jeu, il la gardait toujours à l'esprit. Il y avait une chose contre laquelle, pendant toute sa vie professionnelle, il a réagi. Il n'aimait pas les mines. En Afrique, à chaque instant, à chaque endroit, il ressentait quelque chose de terrible à leur égard parce qu'il ne pouvait prévoir ses chances de victoire. La façon dont l'ennemi allait tirer, la façon de l'esquiver et comment le faire. Ça, il savait qu'il ne pouvait pas esquiver une mine.
Qu'il soit mort de cette façon-là, c'était réellement tragique pour nous. Surtout que c'était annoncé en même temps que l'armistice de l'Indochine, la fin de la guerre de l'Indochine, et qu'il ne devait même pas y aller, comme il y est allé pour remplacer un autre photographe qui était empêché d'y aller, couvrir les derniers jours, et il ne voulait pas y aller parce qu'il dit « c'est pas une guerre pour moi ».
Successivement directeur de rédaction à Life Magazine, Magnum et au New York Times.
There is a word, I tell you, we never used that word.
Ce mot, on ne s'en servait jamais dans le temps.
It came a little bit from the English word concerned photographer.
Je pense que cela vient du mot anglais concerned photographer.
The word concerned is a Quaker word.
Et le mot concerned, c'est un mot Quaker. Qui dans la philosophie Quaker désigne un certain sens des autres et de l'humanité. Quand Bob est mort, j'étais inscrit au Quaker. Vous ne savez probablement pas ce que c'est que les Quakers. C'est une très vieille secte anglaise.
Non-religious religion.
C'est une religion non religieuse pour laquelle il n'y a pas de prêtre.
In which there are no priests, no really no theology.
Pas de prêtre et pas vraiment de théologie.
It is a very simple creed which simply calls on the brother is on brotherhood of man.
C'est une autre foi basée sur la fraternité.
Quaker expressions is concern.
Concern, c'est l'une des expressions préférées des Quakers.
When Bob died, his family didn't know what to do.
Lorsque Bob est mort, sa famille ne savait pas comment organiser les funérailles. Il était juif, mais jamais il n'a été juif pratiquant.
His mother first thought of burying him at Père Lachaise because
dans un premier temps, sa mère a pensé à le faire enterrer au Père Lachaise parce qu'il aimait Paris si fort. Après, elle a décidé de le ramener à New York.
So I offered them the possibility of having a Quaker service.
Je leur ai offert la possibilité de funérailles selon les rites Quaker.
About him. And so this was held in the Quaker meeting house in New York, and
ça s'est fait dans la maison des Quakers à New York.
Edward Steichen sat next.
C'était un moment absolument incroyable. Edward Steichen était assis à côté de moi sur le banc. Il y a eu des messages de partout dans le monde. Le message d'Ingrid Bergman a été lu. Cornel Kappa s'est levé en fin de cérémonie. Il a récité la prière juive des morts. Et sa mère est restée debout, hurlant pendant toute la cérémonie. C'était incroyable. Pour Cornel Kappa et sa famille, ça a été la première expérience de Quakerisme. Brusquement, ils se sont sentis chez eux. Plus tard, Cornel Kappa, il a alors utilisé le mot Quaker Concern, a créé une fondation des Concern Photographers, et ça veut dire la même chose, photographe engagé.
Marc Ribou.
Il est parti à Tokyo, et de Tokyo, il a été appelé au Vietnam pour remplacer un autre photographe en Indochine, et il est allé à Hanoï, et de Hanoï à Nam Dinh, et là, il a sauté sur une mine, tout près de là. Et moi, j'ai été dans cet endroit plusieurs années plus tard, en 1969, au Nord-Vietnam, au moment où il y avait les terribles bombardements américains et la guerre américaine au Vietnam. Et je pensais beaucoup à ça. Je me ressouvenais de toute cette période qui prend allure aujourd'hui d'une histoire de légende. Et c'est vrai que Kappa revêt un quart d'une histoire de légende. Mais le temps fait aussi que les histoires deviennent plus facilement peut-être des légendes. Mais c'est vrai qu'il était un homme, je dirais pas héros, parce que qu'est-ce que c'est héros? Les circonstances font que les gens vivent dans leur vie des moments héroïques, mais personnage de légende parce que il était vraiment avec une reine ou avec Hemingway ou avec un patron d'hôtel ou un garçon de course, il était le même et il avait un rayonnement extraordinaire. Une des dernières photos ici, et je me souviens très bien de celle-ci en Indochine, c'est quelques jours avant qu'il ait été tué, donc il n'a jamais vu cette photo. C'est dans les films qu'on a trouvé dans ses sacs et sur le delta du fleuve Rouge près de Taïping, le 25 mai 1954. Il était de toute évidence sur un convoi de troupes françaises, c'était l'époque où c'était la France, les Français qui occupaient l'Indochine et qui se défendaient contre le Viet Minh. Et je me souviens, à ce moment-là, quand au bord de cette route où on voit des camions avec des antennes et deux motards qui suivent le convoi dans la poussière soulevée par les camions, on voit au bord de la route un Vietnamien, à ce moment-là les militaires les appelaient des Viet Minh, avec un parapluie, on se demande pour un parapluie sur le ciel d'été, sans doute pour se garder à l'ombre. Mais chaque civil rencontré à ce moment-là était un Viet Minh suspect. Et après les dernières photos, voilà les soldats vietnamiens et français, 21 mai près de Nam Dinh, avec des soldats tués. Ça, c'est une très belle photo d'une femme qui pleure dans un cimetière.
fil perdu, Robert Capa, première partie. Une émission de Dorothée Noblet avec Cornel Capa, Maria Esner, Pierre Gassman, Suzy Marquis, John Morris, Alexandre Troner, Marc Ribou, Jean-François Vallée. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Jean Fèvre, Daniel Fontanarosa.
C'était le premier des deux profils perdus consacré à Robert Capa. Première diffusion sur France Culture le 19 octobre 1989. À suivre.